lire dans le livre des Proverbes, premier passage, chapitre 22. Proverbes, chapitre 22, verset 17. Proverbes, chapitre 22, verset 17. Proverbes, chapitre 22, verset 17. Vous y êtes ? Prête l'oreille, écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science, car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi, et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres, afin que ta confiance repose sur l'Éternel. Je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi. Je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi. Un autre passage dans l'Évangile de Jean, au chapitre 21, verset 14. C'était déjà la troisième fois, verset 14, que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceci ?» Alors rappelez-vous, excusez-moi, je n'ai pas situé le contexte, nous sommes donc après la résurrection de Jésus. Jésus se révèle à eux, si vous regardez juste auparavant, il mange avec eux, et ils ne le reconnaissent pas, et ils vont le reconnaître par la suite. Donc ici, il interpelle Pierre. Alors, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que plus que ne m'aime ceci, excusez-moi. Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit, « Pour la troisième fois, m'aimes-tu ? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras tes mains et un autre te saignera et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Ayant ainsi parlé, il lui dit « Suis-moi ». Pierre s'étant retourné et vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui pendant le souper s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? Toi, suis-moi. Amen. » Toi, suis-moi. J'ai intitulé ce message « Suis-moi ». Non pas moi, personnellement, mais vous comprenez que je fais allusion aux propos de Jésus. C'est vrai, le Seigneur nous appelle personnellement. Et ça a été dit tout à l'heure dans l'introduction des chants, il y a une dimension communautaire. Le chrétien, il vit dans une relation fraternelle et c'est bon pour nous d'être présents, d'assister aux rencontres où le nom de Jésus est respecté, aimé, Dieu est honoré parce qu'on peut ensemble connaître ce que dit le psaume 133, c'est là que Dieu envoie sa bénédiction, on connaît toutes ces choses et on se réjouit de ça. On sait que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, réunis. Et quand il y a eu la Pentecôte, ils demeuraient ensemble, ils étaient assidus au temple, dans la communion fraternelle, vous connaissez Actes 2, 42. Donc ils étaient chaque jour assidus ensemble au temple, ils rompaient le pain ensemble, et c'est ce que nous voulons faire, bien sûr nous le faisons le dimanche, mais nous voulons être assidus, engagés, et la dimension communautaire est importante. Et il est bon pour nous de, pas seulement, alors bien sûr, je peux comprendre qu'on soit des fois sur Zoom, mais vous savez, ça ne compensera jamais la réalité de la communion fraternelle de vie, de cœur à cœur, de corps à corps, parce que Dieu est celui qui est au-dessus de tout, il a voulu ainsi. Donc si vous pouvez venir, venez. Si vous voulez rester, vous avez le droit, mais pour moi, il me semble que c'est difficile de pouvoir être vraiment intégré, comment dire, vivant dans le corps. À ce moment-là, on se sent un petit peu décalé, mais on peut comprendre aussi que vous ne puissiez pas venir. Mais il y a cette dimension communautaire. Mais il y a aussi cette dimension personnelle, verticale. Cette dimension, je dirais, qui nous concerne en propre. Et le salut, bien sûr, on le sait, ne peut être acquis que personnellement. Et ici, d'ailleurs, Jésus va s'adresser à Simon. Il parle qu'à lui, là, dans ces circonstances. Il ne dit pas aux autres la même chose. Dans le sens où il va s'adapter, il va parler. Autant il a ses disciples, et souvent il y aura un enseignement, même à la foule, je dirais, pour l'ensemble. Mais aussi, on voit qu'il y a des propos, des conseils de Jésus pour quelqu'un personnellement. D'ailleurs, l'évangile de Jean, je rappelle, c'est l'évangile des rencontres personnelles. Hein, c'est, si vous lisez l'évangile de Jean, vous voyez qu'il rencontre personnellement la Samaritaine, Nicodème, etc. Hein, je ne l'ai pas dit dans l'ordre, mais vous retrouvez ça. C'est l'évangile de la rencontre personnelle. Même à la Pentecôte, ils étaient très nombreux. Et quand Pierre va, inspiré par l'Esprit, annoncer qu'est-ce qui est en train de se passer, il nous dit qu'ils ont eu le cœur vivement touché, et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous ?» Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc on voit bien qu'il y a cette démarche personnelle aussi qui est nécessaire. Je sais que vous savez tout cela, mais je le rappelle. Pourquoi ? Parce que tout chrétien va comparaître devant le tribunal de Christ. Alors vous allez dire, un tribunal, c'est compliqué, c'est dur, etc. Et c'est ce que dira l'apôtre Paul. Un jour, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, dira Paul, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Donc on voit bien que s'il y a cette dimension collégiale, cette communion fraternelle et d'église locale ou d'église dite universelle, ça c'est une autre étape, mais dans la Bible, très souvent, le mot ecclésia se rapporte à l'église locale. Hein. Je ne me rappelle plus, j'avais lu, je crois qu'il y a un pourcentage, plus de 80% qui est cité, où on dit ecclésia, le mot en grec pour église, est utilisé pour l'église locale. Donc quand on dit je suis de l'église universelle et on ne veut pas s'intégrer dans une église locale, ben, on peut jeter la moitié de la Bible. Hein. Je le dis entre parenthèses, si des fois quelqu'un pouvait penser ces choses-là. Mais on voit bien que s'il y a cette dimension collégiale, commune, localement, il y a aussi cette l'Église, elle est constituée de chacun d'entre nous. Nous sommes l'Église. Nous sommes dans une Église locale qui appartient à une organisation, une association, mais nous sommes l'Église de Jésus-Christ dans le sens où chacun d'entre nous qui sommes nés de nouveau, nous sommes l'Église. Nous faisons partie de l'Église. Et c'est un engagement personnel. Et en fonction de comment je vis ma foi, comment j'ai mon engagement personnel avec Dieu et avec les autres, ça va déterminer, bien sûr, l'avancée du royaume de Dieu, ou bien je m'isole et j'en parlerai peut-être une autre fois. Ici, Pierre, on sait qu'il avait renié le Christ. Il avait renié le Christ et ça avait été compliqué, et ça a pris du temps. Et quand il était là à se défausser en disant « mais je ne le connais pas, moi je ne suis pas galiléen », etc., il va vraiment se dégager. On sait que ça a été compliqué. Et quand il a pleuré amèrement face à tout ça. Hein, et ici, on voit bien que Jésus va rétablir Pierre, va restaurer Pierre dans cette continuité qu'il attendait de lui. Pierre a trahi Jésus, a lâché prise, a croyé, pensé que... Mais Jésus ne va pas le laisser dans son malheur. Il va vraiment l'amener à revenir sur le chemin de Dieu. Et Jésus va poser la question pour tester ça quelque part, un petit peu qui il est, pour peut-être le confronter, non pas pour lui faire le détruire, mais pour lui montrer que Jésus veut l'amener plus loin. Il va lui dire plusieurs fois, même tu, je ne vais pas développer pourquoi il y a le mot agapéo, le mot philéo. Hein. Et voilà, c'est la question qui revient. Et puis, après, il va vraiment, il va devoir comprendre, Pierre, hein, qu'il a besoin de repartir. Et Jésus va vraiment l'encourager à paître les brebis, etc. Et Pierre, il va lui dire, mais tu sais, quand tu seras vieux, d'autres te scindront, etc. Et lui, il commence un petit peu à réfléchir encore là-dessus. Et je dirais, il va se tourner, il va demander, poser la question par rapport probablement à Jean qui est là. Et lui, qu'est-ce qui va lui arriver? Et voilà. Et on voit ici que Pierre se focalise un petit peu sur l'autre, sur les autres. Hein. Et j'aimerais nous dire que notre vie chrétienne ne doit pas être exclusivement conditionnée par les autres. Parce que sinon, on peut se tromper. Alors, vous allez me dire, oui, mais alors on parle d'unité dans l'Église, mais en même temps, tu dis, il ne faut pas se conditionner. Non, il ne faut pas chercher à comprendre toujours ce qui se passe chez les autres. Hein. Mais nous devons, en tant que disciples, éviter de nous comparer aux autres. Et là, Pierre, il se tourne, il essaie de savoir ce que Jean est en train de va vivre, etc. Et il est conditionné par ce que font ou ne font pas les autres. Et en tant que chrétien, on est peut-être influencé par l'autre. Et c'est normal. Hein ? Mais il va être restauré pour être responsabilisé à nouveau. Pierre, quand Jésus l'interpelle, m'aimes-tu ? Et puis il va développer certains aspects. Il va lui dire, paie mes agneaux, paie mes brebis par deux fois. Hein, et il va vraiment l'amener à comprendre, à découvrir certaines choses. Alors, laissez-moi vous donner un exemple de Jésus qui est surprenant, qui est prophétique. C'est dans le prophète d'Ésaïe. Regardez avec moi dans Ésaïe chapitre 42. Vous allez voir où je veux en venir, parce que peut-être vous dites, je n'ai pas encore compris où il veut en venir, c'est normal. Ésaïe chapitre 42. On va voir et on va s'arrêter maintenant sur Jésus. On va voir comment Jésus a vécu sur cette terre et comment il a été à l'égard des autres. Comment il a agi par rapport à l'influence ou au regard de l'autre. Et dans chapitre 42, verset 19, il y a ici des versets qui me semblent prophétiques concernant Jésus-Christ. Il dira, « Qui est aveugle ?» Sinon mon serviteur est sourd comme mon messager que j'envoie. Qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel ? Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. » Si je vous disais que ça, pour moi, c'est Jésus-Christ. Là. Il fait mention de Jésus. Vous allez me dire, quoi, Jésus ? Et non, il entend, il se connaît même les cœurs. C'est vrai. Mais ici, il est aveugle, sinon mon serviteur. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. On sait que Jésus va dire, je vais y venir par la suite, Jésus va dire, je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Jésus savait quelle était la volonté de Dieu pour lui. Et quand il est venu sur cette terre, il n'était pas sans connaître le plan que Dieu voulait, parce qu'il était lui aussi l'égal de Dieu. Donc il a pu, dans le ciel de gloire, dire « Je me voici, envoie-moi », comme dira Ésaïe, hein, et il a été envoyé. Et Jésus, quand il a été ici-bas, et je dirais il a vécu avec les impératifs de Dieu. C'est-à-dire que quand vous regardez la vie de Jésus, on voit que Jésus ne se laisse pas arrêter par les circonstances, par les propos d'un, il ne va pas aller sur un chemin parce qu'il va passer là-bas. Et on voit que Jésus connaît quelle est sa mission, il chemine dans cette mission-là, et malgré des fois les propos, les attitudes, les pensées que certains avaient. C'est vrai qu'on sait qu'il nous a dit que Jésus connaissait ce qu'il y avait dans leur cœur, souvent, parce qu'il était quand même, il est le Fils de Dieu. Il était là, mais on voit bien qu'il ne se laisse pas conditionner par l'apparence des situations des personnes. Il n'a pas de, même si les discours sont dérangeants, même si l'hypocrisie est là, même si on épie Jésus pour essayer de le coincer, on voit bien que lui, il ne se laisse pas arrêter. Il va être sourd à cela. Il va, pas s'arrêter. Il va fermer ses oreilles. Il garde le cap, si vous voulez, dans sa mission. Et en cela, nous sommes invités à ressembler à Jésus-Christ. Je vous donne un exemple. Vous savez, à un moment donné, on le retrouve dans les trois évangiles, c'est la résurrection de la fille de Jaïrus. Jaïrus a une fille de 12 ans qui est souffrante. Et alors qu'elle est souffrante, on fait venir Jésus, on va chercher Jésus. Hein, alors soit on va chercher Jésus, soit c'est Jaïrus qui va. Et Jairus, qui est le chef de la synagogue, bien sûr, s'humilie devant Jésus, il fait venir Jésus. Mais entre-temps, il y a cette femme atteinte d'une perte de sang qui vient toucher le bord de l'vêtement du Jésus, elle est guérie. Alors tout s'arrête, etc. Et puis, alors que maintenant elle est guérie et qu'ils reprennent le chemin, Jésus et les disciples, et puis Jairus, on voit ici que des gens arrivent et qui disent « Ta fille est morte !» C'est dans Marc 5, 35. « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Vous voyez, c'est Jésus, sans tenir compte de ses paroles. Il est resté sourd à cette parole. Vous allez me dire, oui, mais il savait ce qu'il allait faire, bien sûr. Mais il reste sourd à cette parole parce qu'il va dire, il va enseigner quelque chose à Jairus, crois seulement. Et même quand ils arrivent dans la maison, etc., on sait que ça ne va pas être facile. Hein ? Et nous voyons que ici, Jésus ne se laisse pas, alors qu'il chemine, dans sa mission, il ne se laisse pas détourner par les choses. Le prophète Ésaïe nous a dit aussi qu'il a rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai pas confondu. Ésaïe 50, verset 7. Hein, je le lis, mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Jésus ne s'est pas laissé arrêter. Et béni soit Dieu, heureusement pour nous. Il ne s'est pas laissé conditionner alors même qu'on cherchait à le confondre. Soyons des disciples déterminés qui ne se laissent pas conditionner, détourner par des situations d'opposition. Soyons convaincus par la parole, soyons de ceux qui ne se laissent pas arrêter par des choses des fois qui peuvent être pénibles, mais courons les yeux fixés sur Jésus, courons dans la carrière, comme dira l'Épître aux Hébreux au chapitre 12. Hein, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Hein. Et puis il nous dira, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Comme pour dire, si Jésus a pu aller jusqu'au bout, tu peux aller jusqu'au bout. Et tu peux toi aussi supporter des choses, peut-être pas à la mesure de Jésus, bien sûr, on sait qui on est, hein. Mais nous ne voulons pas dépendre des influences du moment, des modes qui passent. Parce qu'il y a des modes dans nos milieux si on ne veille pas. On ne peut pas nous laisser, je dirais, on peut pas laisser les influences de certaines situations nous atteindre, sinon eh bien, on sera vite ébranlé. Ce n'est pas là le dessein de Dieu. Le dessein de Dieu est différent. Alors, je vais peut-être m'adresser directement maintenant à chacun d'entre nous. Peut-être, ne le prenez pas mal si je tutoie. Hein. Ici, Jésus dira à Pierre, « Que t'importe ?» Point d'interrogation, toi, suis-moi. Et j'aimerais dire, « Que t'importe les expériences négatives que tu as vécues ?» Que t'importe. On en a tous vécu des expériences négatives, n'est-ce pas ? Ne te décourage pas. Vous savez, quand Jésus va monter dans la barque de Pierre pour la première fois, alors qu'ils sont là en train de laver leur filet, de nettoyer, tout ça, ils rentrent, ils plient boutique en fait, ils sont en train de plier, ils ont passé une nuit à rien attraper. C'est difficile pour eux, c'est peut-être inquiétant. Et puis Jésus va monter dans la barque, il va enseigner, on ne sait pas combien de temps. Et dans Luc 5, 4, il dit, lorsqu'il lui cessait de parler, il dit à Simon, « Avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » Et il aurait pu s'arrêter là. « Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Vous savez, ils avaient peut-être la matière, lui, Pierre et ses collaborateurs, ils avaient la matière à ressasser leur échec, à réfléchir pourquoi on n'a pas. Mais on est des professionnels de la pêche, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Pour peu que les autres, plus loin, ils aient attrapé quelque chose, alors là, ils auraient pu sombrer dans le découragement. C'est vrai, hein ? Il y a des expériences qui sont négatives que nous vivons tous, un jour ou un autre. Et ces expériences auront comme effet d'influencer notre cœur au découragement. De nous amener à douter de nous dans beaucoup de domaines, à peut-être avoir beaucoup d'émotions négatives. Hein. Et ça, c'est vrai, ça existe. Ces circonstances, elles sont décourageantes. Mais ici, Jésus va parler. Et il dit « Avance en plein eau ». Et lui, il dit « Nous avons travaillé toute la nuit, sans rien attraper, hein, sans rien prendre ». Mais il y a comme un sursaut de foi, je ne sais pas comment dire, une réaction de foi. « Sur ta parole, je jetterai le filet ». Et là, nous avons l'exemple de ce que je voudrais nous dire ce matin. C'est-à-dire, soit je me laisse imprégner de toutes les émotions, de toutes les déductions, de toutes les pensées justes, qui ne sont pas fausses, que je vis, et je fais comme tout le monde, comme celui qui n'a pas Dieu. Soit je dis, c'est vrai ça, mais Dieu peut avoir un plan. Dieu a certainement des choses à me dire. Et ici, il agit en fonction du Seigneur, en fonction de la parole du Seigneur. Et comme il agit en fonction de la parole du Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont attrapé la pêche plus. Hein. Je ne vous dis pas que faites semblant et Dieu vous donnera, parce que Dieu connaît nos cœurs. Hein. Et je vous dis juste, et je me dis, je ne te laisse pas assaillir par des pensées décourageantes, malgré les expériences négatives qu'on peut vivre les uns les autres. Peut-être professionnellement, peut-être, je ne sais pas, familialement, peu importe. Dans quel registre, mais ça existe. Et on a des expériences négatives. Elles voudraient nous laisser à terre. Et en plus, il y en a un ennemi de notre âme qui va mettre des pensées encore supplémentaires. Il va mettre des traits enflammés. Il va dire, ah, ceci, cela, machin, couffin. Et il va essayer de mettre la panique. Mais mon frère, ma sœur, réagis dans la foi. Réagis dans la foi. Que t'importent les expériences négatives que tu as vécues ? Ne sois pas otage de tes émotions négatives. Hein, et ça, on le sait. Agir plutôt en fonction de la parole de Dieu, parce qu'elle est digne de confiance. Dieu est digne de confiance. Que t'importe les chemins que d'autres ont pris ? Après la première multiplication des pains, Jésus va enseigner, et on voit dans Jean chapitre 6 que quand il enseigne, Il va enseigner sur... Il va dire, je suis le pain vivant descendu du ciel. J'en ai déjà fait allusion il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, de ça. Et il va parler du pain vivant descendu du ciel. Et nous est dit, dans Jean 6, 60, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole dure, qui peut l'écouter ? Parce qu'il va dire des propos qui peuvent surprendre à la première lecture. Celui qui ne boit pas mon sang, celui qui ne mange pas ma chair. Et puis au verset 66, il nous est dit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Quand certains disent « On va partir », Jésus ne change pas de discours. Hein. Jésus ne dit pas oh, « Les gars, vous m'avez mal compris. Hein. » Restez, allez, je vais vous expliquer, parce que vous n'avez pas compris. Hein. Jésus n'est pas dans ce registre-là, pas de compromis. Il n'est pas dans « Je me suis mal exprimé ». Il va dire les choses, peut-être même si elles ne sont pas comprises, c'est difficile, mais il ne se laisse pas influencer. Vous voyez, Jésus ne se laisse pas dérouter dans cette marche. Hein. Et pour qu'est-ce que ça veut nous dire ? Ça veut nous dire que malheureusement, t'as entendu parler de ceux qui se retirent, qui parfois peut-être préfèrent abandonner, alors peut-être pas la foi, mais prendre des chemins détournés, c'est vrai, ça existe. Mais pour autant, quand il s'adresse aux 12... Et dites-vous, ne voulez-vous pas partir hein? Et Jésus va entendre cette réponse de Pierre, quand même, qui est inspirée. Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous, nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Que t'importe, je dirais, Jésus n'a pas changé. Et si, bien sûr, d'autres sont partis, c'est pas qu'on se moque des autres, qu'on ne les aime pas, ou pas du tout, bon, pas du tout, au contraire, ça, notre cœur est blessé, touché, on est bouleversé. Et quand même, est-ce que je dois me laisser influencer ou est-ce que je dois chercher ce que Dieu veut pour ma vie ? Que t'importe aussi le contexte social dans ce monde ? Et je pense là peut-être à les plus jeunes parmi nous, et on est heureux de les voir, hein. Ces plus jeunes, on est dans un monde corrompu, c'est vrai, un monde enténébré, un monde où le péché abonde, un monde où les choses s'accentuent, on peut facilement se souiller de diverses manières. Mais le dessein de Dieu pour son enfant, ben c'est tout le contraire. Hein ? C'est que ta mentalité, ton cœur soit différent, que tu sois sanctifié par la parole et que dans ce monde enténébré, tu puisses être rempli de feu. C'est là le dessein de Dieu. Oui, tu peux vivre une vie droite. Et j'aime donner l'exemple souvent, vous savez, de Joseph dans la Genèse. Ce Joseph, après entre 17 et 20 ans, hein, et quand il est dans la maison de Potiphar, que la femme de Potiphar dit « viens couche avec moi », elle insiste maintes fois, hein, et lui il dit « je n'ai pas péché contre Dieu et contre mon maître, je veux... » Non, il se garde pur. On voit bien que même adolescent, jeune, on peut se garder pur parce qu'on est capable, quand on craint Dieu, on est capable de suivre ce que Dieu nous dit. Parce que Dieu nous donne la capacité de résister au mal. Ça a été dit tout à l'heure. Dieu nous donne la capacité d'être rempli de l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Oui, tu peux vivre une vie droite et pure dans ce monde en ne te laissant pas mouler par l'esprit du monde. Vous connaissez Romains chapitre 12, verset 1er et verset 2. Hein, il dira « Ne vous conformez pas au siècle présent ». C'est couler, mouler, en fait, le terme. Hein ? Mais soyez transformés par la nouvelle intelligence, etc. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Oui, vous pouvez être jeune dans la foi et on bénit Dieu que vous soyez jeune et que vous ayez saisi la main de Dieu dans jeune. Mais vous pouvez aussi vivre purement dans ce monde. Ça va demander beaucoup de courage, mais ce n'est pas votre force qui compte, c'est votre communion avec le Seigneur qui fait que vous tiendrez ferme par la grâce de Dieu. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier, dira le psaume 119, verset 9. Hein, qu'est-ce qu'il dit ? En se dirigeant d'après ta parole. Tu veux tenir ferme ? Connais la parole. Apprends de la parole. Communie avec le Seigneur. Il dit ça, c'est ce que tu as écrit, Seigneur, ça a été écrit il y a peut-être des siècles en arrière, mais c'est pour moi aujourd'hui. Seigneur, je veux apprendre. Je veux apprendre de toi. Fais grâce, Seigneur. Dans le psaume 1, il dira... Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Alléluia. Est-ce vraiment possible de tenir ferme? Alors, bien sûr, on n'est pas parfait. La perfection n'est pas de ce monde. On avait ce corps, il réagit parce qu'on ronge tous de diverses manières, dit la Bible, hein, par la parole, par les pensées, etc. Mais un exemple dans l'Ancien Testament qui est assez parlant, c'est l'exemple de cet homme qui s'appelle Abdias. Abdias, il est dans un contexte tout à fait compliqué. Le roi, en poste, en fonction, est un roi qui déshonore Dieu au plus haut point. Il fait tout un tas de choses, il est idolâtre, il est marié avec une femme qui l'a poussé encore plus loin dans ces chemins-là, c'est Jézabel. Et cet homme-là et cette femme-là, ils persécutent les prophètes de Dieu, de l'Éternel. Il les oppose, le prophète à l'époque, Élie, il est obligé un petit peu de se cacher, tellement c'est compliqué. Hein. Et la cour du roi était certainement influencée par tout cela. Alors, je ne vous dis pas l'ambiance dans le pays, ça devait être quand même assez anti-Dieu. Hein. Mais malgré tout, on sait qu'Abdias craignait Dieu. Et quand il vient à la rencontre d'Élie, parce qu'il est mandaté, parce qu'il fait partie un petit peu de la gouvernance du palais, Abdias, quand il vient rencontrer le prophète Élie, qui est là-haut, hein, il vient et il va dire « Cependant, ton serviteur craint l'Éternel de sa jeunesse. » Et pour moi, là, il y a un exemple d'un homme qui était dans un contexte défavorable, comme beaucoup d'exemples dans la Bible d'ailleurs, d'un homme qui était dans un contexte défavorable, le péché abondait, l'idolâtrie était terrible, Dieu certainement était déshonoré de diverses manières, mais malgré tout, lui craignait le Seigneur. Et quand on voit dans la Bible, par exemple, on sait que Dieu dira au prophète, j'ai laissé en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi le genou devant Baal et dont la bouche ne l'a pas baisé. Hein. Et je dirais, là où vous travaillez, là où vous êtes en études, là où vous êtes professionnellement, le contexte est certainement unique, sombre, très souvent, ça va pas planer haut, les conversations, ça va être plutôt des choses terribles. Mais comme Abdias, ça signifie adorateur ou serviteur de l'Éternel, craint Dieu. Malgré tout, si tu crains Dieu, si tu cherches Dieu, et si tu cherches la force en Dieu pour tenir ferme, sache que tu donneras la capacité de tenir ferme, parce qu'il est le fidèle, il ne te laisse pas tout seul, il marche avec toi. Hein, et ne vous laissez pas influencer, couler. Quand il y a des blagues vraiment mauvaises et malsaines, au lieu d'en rire ou de participer, éloigne-toi. Quand il y a des choses qui sont là, ou même des collègues de travail qui peuvent essayer de te tenter de diverses manières, éloigne-toi. Sois aveugle, sois sourd à toutes ces choses, afin que le Seigneur soit glorifié. Dans l'entreprise où tu travailles, quand on te demandera de faire quelque chose de malhonnête, toi dis non, non, je veux rester honnête. Et quand on voudrait peut-être même te reprendre à ce sujet-là, mais garde le cap, ne perds pas pied, parce que le Seigneur est fidèle. Que t'importe, j'ai envie de dire, le contexte familial dans lequel tu te trouves. Peut-être tu es célibataire, peut-être tu es divorcé, peut-être tu es veuf, veuve, remarié. Que t'importe, j'ai envie de dire. Suis Jésus. Suis Jésus. Arrête de vivre que dans le passé. Arrête de toujours essayer de mériter quelque chose. Tu ne mérites rien, comme personne ne mérite quoi que ce soit. Mais attache-toi au Seigneur. Et prends un chemin. Détermine-toi à aller sur ce chemin. Va jusqu'au bout, ne te laisse pas décourager. Que t'importe aussi le temps qui passe. Et le temps passe vite. Depuis des années, tu peux prier pour tes petits-enfants, tes enfants, ton mari, ta femme, ton épouse. C'est compliqué. Persévère dans la foi. Ne te décourage pas. Vous savez, Abraham, dans la Bible, on sait qu'il était, il avait le fils de la promesse. Dieu avait donné une promesse précise concernant le fils de la promesse, mais voilà, ils sont âgés, ils sont vieux, et ça commence à douter de la situation. Alors il s'est moulé un petit peu, il s'est laissé mouler à ce qui se passait à pratiquer à l'époque. À l'époque, on mettait une concubine, il y avait toute une procédure là, à disposition de l'homme, pour que par sa descendance, ça suscitait la fécondité chez la femme, etc. Et on sait que ça a été quand même compliqué, hein, compliqué, ça n'a pas été la meilleure des solutions. Mais ce qui s'est laissé peut-être conditionner par les coutumes de l'époque à ce moment-là, mais il n'est pas resté comme ça, heureusement. Et l'apôtre Paul dira au Romains chapitre 4, verset 17, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts, qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, espérant contre toute espérance. Il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. telle sera ta postérité. » Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Amen. Amen. Hein, nous avons là des exemples dans la Bible pour justement, toutefois, les pensées viendraient pour nous faire arrêter de prier, pour dire « j'y crois plus », etc. C'est là le combat de la foi. Et le Seigneur va nous faire grâce, il va nous parler. Et puis, je vais bientôt conclure, que t'importe ce que tu peux ressentir, constater. Vous savez, si Jésus s'était laissé influencer par ce qu'il percevait chez le prochain, il n'aurait probablement pas été accompli sa mission aussi droitement. Quand Paul écrit à ce jeune serviteur Timothée, il va dire « C'est à cause de cela que je souffre ces choses. » Alors il explique pourquoi, juste auparavant. « Mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Hein » Donc je conclue. Prête, on a lu dans les proverbes, prête l'oreille, écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science, car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi, et qu'elle soit toute présente sur tes lèvres, afin que ta confiance repose sur l'Éternel. Je veux t'instruire aujourd'hui. Oui, toi. Dieu nous place devant notre responsabilité personnelle, devant ma responsabilité personnelle. À Timothée, Paul va le placer devant ses responsabilités. Il va lui dire, par exemple, et je termine par cet exemple de Paul à Timothée, 1 Timothée 6, 11, « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. » Recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit quelque part, t'arrêtes pas, te décourage pas par rapport à ça. Il va lui dire ailleurs, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus. Comme pour dire, il y aura de l'opposition, tes sentiments vont être ébranlés. Ton cœur va pas être réjoui. Tu vas avoir des difficultés de l'opposition, mais souffre avec moi. Hein, et va lui dire, fuis toutes ces choses qui pourraient gangréner, te laisser mouler. Et dans 2 Timothée, parce que c'est la seconde lettre, il va dire ceci au chapitre 1, verset 13. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Vous voyez bien qu'il y avait là aussi des difficultés. Et partout, il y aura des difficultés. Mais ton défi, mon défi, c'est de dire, Seigneur, finalement, cette parole que tu as dit à Pierre, elle est pour moi. Jésus, c'est comme s'il nous disait ce matin que t'importe. Tout ça, c'est pas faux, c'est pas injuste, c'est pas stupide, mais c'est pas ce que Dieu veut. Jésus te dit que t'importe, toi, suis-moi. Il y a des années de ça, très longtemps, quand j'étais jeune marié, dans l'église où nous étions, il y a eu une division et notre famille s'est trouvée de droite et de gauche dans cette division, d'un côté, et l'autre partie de la famille de l'autre côté. On était jeunes mariés, moi j'ai commencé, on a essayé de faire un petit peu le lien entre les choses. Jusqu'au moment où le Seigneur, un jour, je me rappelle, le Seigneur m'a... C'est comme s'il me reprenait, il me disait « Arrête de chercher à savoir de droite et de gauche. » Et c'est comme s'il me... C'est pas m'invectiver, c'est comme s'il me... Il me donnait un ordre, mais pour me bénir. Et c'est comme s'il m'a dit, regarde plus ma parole. Et j'ai jamais lu la parole autant de fois que ce moment-là. Pendant des semaines, j'ai dit, ça suffit, on ne va plus s'intéresser à qui a raison, qui a tort, parce qu'on ne va pas s'en sortir. Et on va regarder en haut. Et le Seigneur nous a bénis. Et j'avoue que si on n'avait pas entendu la voix de Dieu ainsi, de cette manière-là, dans nos cœurs, plus profond dans notre être, je pense que je ne serais certainement pas là. Et je ne dis pas ça pour me mettre en avant, hein, Dieu m'en est témoin. Je dis cela pour dire attention aux émotions et aux sentiments. Attention aux pensées qu'on pense être juste. Qui je suis, moi, pour savoir tout ça? Par contre, l'Éternel, c'est toute chose. Mon frère, ma sœur, que t'importe? Suis-le, suivons-le. Ne baissons pas les bras, ne laissons pas décourager. Gardons plutôt les paroles de Dieu et cherchons Dieu. Comprenons quelle est son intention et nous verrons la gloire de Dieu. Et vous, jeunes gens, là où vous êtes en études, là où vous êtes, je dirais peut-être où travaillez, là où vous allez cheminer dans vos choix, faites pas n'importe quoi. Ne vous laissez pas influencer par la mode du moment, par les choses qui sont là. Dites, Seigneur, je veux être différent, non pas parce que je veux faire comme les malins, mais parce que je veux être comme tu le veux. Alors il y a des choses, je ne les comprends pas, mais tu m'aideras. Je suis sûr que tu sauras me parler. Mais cherchez Dieu, vraiment. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse. On prie ensemble avant de nous séparer. Quel amour tu as pour chacun d'entre nous. Tu aurais pu te tourner de Pierre alors qu'il t'avait renié. Tu aurais pu le laisser dans son état, mais il t'a plu à revenir vers lui par amour pour l'amener maintenant à nouveau sur ce chemin de la foi. Pour nous tous, de diverses manières, d'une manière ou d'une autre, tu es venu vers nous plusieurs fois. Et tu nous as parlé, tu nous as conseillé, tu nous as relevé, tu nous as pardonné. Et ce matin, on peut te dire vraiment de tout notre cœur que nous voulons te suivre. Ce n'est pas juste une interpellation comme ça en l'air. Nous voulons te suivre. Malgré les contextes, malgré les propos, malgré les sentiments, malgré nos perceptions humaines, nous voulons te suivre, Seigneur, et aller jusqu'au bout de cette course. Nous voulons te laisser la priorité dans nos vies, chercher à te plaire, à t'honorer, à te glorifier. Et ce, même si parfois les épreuves ou la souffrance peuvent traverser notre chemin, nous ne voulons pas, Seigneur, nous perdre, nous laisser influencer par l'esprit du monde, mais nous voulons, Seigneur, nous laisser toucher par ta grâce. Je te bénis parce que tu es le consolateur, tu es le paraclet, et tu es aussi celui qui a donné ta parole et ton esprit pour nous conseiller, pour nous guider. Merci pour la communion fraternelle. Bénis mes frères et sœurs, bénis chacun, bénis chacune. Et que ta bonne main, Seigneur, nous aide à aller de l'avant. Donne-nous de chercher ta vérité, ton amour, ta droiture, à te plaire, à t'honorer, à t'obéir. Seigneur, apprends-nous à résister, c'est vrai, à tenir ferme dans tous tes plans. Nous te le demandons en ton nom, Seigneur, parce que nous voulons, oui, répondre à ton appel, quand tu dis que t'importe, toi suis-moi. Nous voici, Seigneur, nous voulons te suivre. Amen. Amen.